Du samedi 3 juin au vendredi 9 juin 2017, à 10h et à 13h, retrouvez sur Couleur FM les candidats aux élections législatives de la 6e et de la 10e circonscription de l'Isère. Ces émissions sont animées par Thierry Borde.
Couleur FM spéciale législative, c'est reparti toute la semaine. Nous vous présentons vos candidats sur les 10e et 6e circonscriptions de l'Isère. Et aujourd'hui, nous rencontrons Vincent Chriqui et Damien Michalet, qui sont en candidat Les Républicains sur la 10e circonscription. Bonjour Monsieur Chriqui, bonjour Monsieur Michel.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être venu nous voir. Alors, règle que pour tous les autres candidats que nous rencontrons cette semaine, je vais vous demander tout d'abord, alors on vous connaît un petit peu, vous êtes maire chacun, mais de vous représenter chacun en quelques minutes aux auditeurs.
Bonjour, donc je suis effectivement le candidat d'Union de la droite et du centre, soutenu par les Républicains et par l'UDI. Et je me présente sur cette 10e circonscription en étant maire de Bourgoin-Jallieu depuis 2014. Je suis un jeune maire qui a été élu avec toute une équipe municipale, bien entendu. Et on a beaucoup travaillé sur cette commune et aussi sur ce territoire à travers la CAPI et sur l'ensemble de la 10e circonscription. J'ai également eu une carrière de fonctionnaire, mais qui pour l'instant est entre parenthèses. Au moment où je me présente, je suis uniquement maire et conseiller départemental, comme Damien.
Damien Michalet.
Damien Michalet, je suis maire de Satelas-et-Bons. C'est un jeune maire, puisqu'effectivement j'ai été élu en 2014 comme Vincent Chriqui, avec une équipe, puisque une élection, c'est rarement seul, c'est rarement la tête d'affiche qui opère derrière. 42 ans, on dit de moi que je suis un enfant du pays. J'y suis né, je crois même qu'avant j'y étais déjà, avant d'y naître. Je suis également vice-président au département de l'Isère, en charge du très haut débit, un sujet que j'ai porté avec le président Barbier depuis notre élection et qui permet d'éviter cette fameuse fracture numérique.
Très bien. Donc de jeunes mères, comme vous dites, et des mères jeunes. Vos âges le disent. Alors voilà, Monsieur Chriqui, on s'était vu il y a quelques mois. C'était avant tout le lancement des campagnes présidentielles. C'était dans le moment des primaires, je crois, où François Fillon allait gagner. Et puis il s'est passé des tas de choses depuis. Vous avez pris part à l'aventure présidentielle. Et aujourd'hui, après la victoire d'Emmanuel Macron au présidentiel, ces législatives s'annoncent, mais s'annoncent beaucoup plus complexe à analyser que personne l'aurait imaginé la dernière fois qu'on s'est vu. Alors, où est-ce qu'on en est? Quelle est votre vision de la situation actuelle d'abord? Et puis finalement, chez les Républicains, dans cette force droite et centre, comment vous vous situez?
Vous l'avez dit vous-même, François Fillon allait gagner, et puis finalement, il n'a pas gagné, ce qui prouve bien qu'en politique, les pronostics sont toujours hasardeux. Je le dis pour ceux qui considéraient que l'élection législative, que ce soit chez nous ou sur l'ensemble du territoire, soit jouée avant la date du scrutin. Ce seront les Français qui décideront les 11 et les 18 juin. Et ma conviction, qui est renforcée par les échanges qu'on peut avoir sur le terrain tout au long de cette campagne, c'est que les Français veulent un vrai changement, ils veulent une véritable alternance. Et ça, c'est ce que nous proposons à travers notre projet. Ce n'est pas un projet d'opposition systématique au nouveau président, en aucun cas, mais c'est un projet qui vise à le pousser à être audacieux et à faire les réformes qui sont nécessaires, à baisser les dépenses publiques pour pouvoir réduire les impôts. Je pense que ce serait une erreur d'augmenter la CSG comme il le propose, à baisser les charges sur les entreprises pour qu'elles puissent créer des emplois, avoir une vraie politique de sécurité pour que chaque délit reçoive une sanction. Voilà, c'est des lignes très claires sur lesquelles on espère pousser, encourager, entraîner le nouveau président et qui forment l'ossature de ma candidature. Et je pense que c'est un message qui est bien entendu par les électeurs.
Et alors, au sein de votre famille politique, comment ça se passe? On sait que actuellement il y a des personnalités des Républicains qui sont attirées par le mouvement d'Emmanuel Macron En Marche. Vous avez souffert de dissensions pendant les présidentielles. Aujourd'hui, l'unité est refaite derrière François Baroin complètement.
Bah oui, notre mouvement est effectivement uni. Il y a trois personnalités issues de la droite qui ont rejoint le gouvernement. À côté de ça, on a 577 candidats dans toutes les circonscriptions de France, dont l'immense majorité sont sereinement en campagne avec le même projet législatif, qui est à très grand trait celui que j'ai exposé il y a quelques instants. Donc voilà, la famille politique, elle est unie. Et je pense que les discussions qui existent sur la nature du de la manière d'accompagner le président Macron ne porte pas en réalité sur l'essentiel. On a tous l'intention d'être, on l'espère, dans une majorité de la droite et du centre, à défaut dans l'opposition, mais en tout cas dans une démarche vis-à-vis du nouveau président, qui soit une démarche intelligente, qui soit une démarche conforme aux intérêts de la France. Aucun candidat, aucune élection d'ailleurs, je pense, en tout cas aucun candidat raisonnable, se présente en disant « je voterai contre, même si ça correspond à mes idées ». Il y a certaines propositions qui sont celles d'Emmanuel Macron, qui étaient également dans le projet de François Fillon, qui sont également dans le projet de la droite et du centre. Donc évidemment, ces propositions-là, nous les voterons. Mais il y a aussi beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de flou sur des sujets comme ceux que je viens d'évoquer, comme celui des impôts, comme celui de la sécurité. Et je pense que sur ces sujets-là, c'est l'intérêt des Français, c'est l'intérêt des électeurs d'avoir des candidats qui portent une parole forte. C'est pour ça que nous sommes en lice, dans la clarté.
Alors, on reviendra sur le fond juste après. Juste encore une question plus politicienne. On connaît les courants de la droite. Vous êtes ou vous étiez filloniste, vous l'êtes toujours ?
Ah oui, bien sûr. Mais en même temps, nous sommes une famille politique dans laquelle, évidemment, il y a certaines divergences, il y a des débats politiques. Mais enfin, on n'a pas la tradition des mouvements comme dans le Parti socialiste, par exemple. Donc voilà, moi je suis filloniste dans le sens où je suis proche de François Fillon, et ça je ne le renie pas.
Mais malgré tout.
Non, bien sûr que non. Mais je me sens aussi proche de beaucoup de personnalités qui sont réputées être ailleurs sur l'échiquier de la droite. Je m'entends très bien avec Laurent Wauquiez, le président de notre région. Je suis proche de beaucoup de gens qui sont catalogués jupéistes ou sarkozistes ou autres.
François Baroin est venu vous soutenir.
François Baroin est venu me soutenir. Il ne faut pas accorder une importance démesurée à ces étiquettes. Ça correspond à des sensibilités au sein de notre famille politique, mais moi je me considère comme étant dans la grande famille de la droite et du centre, et je m'y sens bien.
Parfait. Mais un petit peu de simplification, ça peut faire du bien dans le contexte actuel. C'est très bien. Alors allons un petit peu plus dans le fond des choses. Vous l'avez largement commencé. J'aimerais peut-être d'abord qu'on commence par la vision, parce que c'est l'une des questions les plus actuelles. Il y a eu les Brexit anglais. Toutes les questions économiques passent à travers ce prisme aujourd'hui. Quelle est votre position par rapport à l'Europe et comment on peut développer une économie, enfin voilà, et votre vision de l'économie par rapport à cela?
Je pense que la place qu'occupe la France en Europe, sa capacité à peser sur les choix européens, sa capacité à être un leader, y compris au plan diplomatique, passe par la réussite économique. La France a pris du retard sous François Hollande parce que nous n'avons pas eu une politique économique qui nous permettait de jouer à jeu égal avec l'Allemagne, mais même avec d'autres pays. Parce que nous avons connu le chômage de masse, parce que nous avons connu l'augmentation des impôts sans qu'on ait pour autant réussi à redresser nos finances publiques. Et donc, moi, je veux une politique économique qui nous permette de retrouver un leadership en Europe. Ça veut dire réduire les dépenses publiques pour pouvoir baisser les charges sur les entreprises et pour pouvoir baisser les impôts. On ne peut pas continuer à être le pays au monde avec le plus haut niveau de dépenses publiques, le plus haut niveau de prélèvements. Je vais être un pays avec une vraie réforme du marché du travail qui permette de se rapprocher du plein emploi, une vraie réforme aussi de la formation. On a une formation qui ne permet pas à nos jeunes d'accéder à l'emploi, qui conduit à un très haut niveau de taux de chômage des jeunes. Mais alors qu'on connaît la réponse, c'est de faire une place beaucoup plus grande à la formation directe sur les métiers, à la formation en alternance, comme a réussi à le faire l'Allemagne ou d'autres pays comme la Suisse, pas très loin d'ici. Donc je pense que c'est à travers ces réformes-là qu'on retrouvera une capacité à peser sur les choix européens, y compris en matière économique.
Vous parlez de travail, de formation. Emmanuel Macron a décidé d'agir vite et par ordonnance très, très, très rapidement. Sur ces sujets-là, vous comptez le soutenir si vous êtes élu ?
Tout dépend ce qu'il y a dans les ordonnances. Moi, je n'ai pas de problème avec à la différence d'ailleurs de certains dans mon propre parti, avec les ordonnances, dans la mesure où les ordonnances sont un outil qui existe dans la Constitution, qui font l'objet d'une habilitation et ensuite d'un vote de ratification au Parlement. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une ordonnance qu'on échappe au contrôle parlementaire. Donc, moi, je m'opposerai pas sur la forme. Mais en revanche, je regarderai sur le fond pour veiller à ce que les réformes qui sont mises en œuvre sont de véritables réformes. Dans l'élection, on a eu un candidat qui était ni gauche ni droite, pas très clair sur ses engagements. La réalité, c'est que nous sommes avec un taux de un chômage de masse, un taux de chômage de, proche de 10%, là où les pays autour de nous sont au plein emploi, avec des taux de chômage de l'ordre de 5%, la plupart des grands pays développés. Donc c'est un énorme écart. Et imaginez qu'on va résorber cet énorme écart en prenant des petites mesurettes qui vont changer à la marge notre système du travail, ça ne marchera pas. Il faut une vraie réforme du droit du travail, il faut une baisse massive des charges sociales, et donc c'est pour ça que je plaiderai. Et je voterai les réformes à condition qu'elles aillent assez loin.
Les courbes du chômage ont commencé tout doucement à baisser ces derniers temps. Est-ce qu'on ne va pas arriver
vous
dans un contexte
pas grand
plus favorable
chose, hein. Non, mais moi je l'espère pour la France, qu'on sera dans une conjoncture un peu plus favorable. Mais aujourd'hui, le système économique et le marché du travail français sont tels que on plafonne à des niveaux de chômage extrêmement élevés, et même dans les phases de conjoncture favorable, on n'atteint jamais un niveau de plein emploi. Donc c'est ce qui montre que notre système ne marche pas, que notre logiciel est cassé, et c'est pour ça qu'il faut des véritables réformes et des réformes audacieuses.
Est-ce que l'institution européenne est un atout ou un frein pour ce développement économique, tel qu'elle est aujourd'hui, tel qu'elle est critiquée aussi par de nombreux candidats autour de vous?
Non, mais enfin, personne ne peut se satisfaire de l'Europe telle qu'elle fonctionne. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais on peut les améliorer d'abord que si la France est respectée en Europe, si elle a une voix qui porte. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Et à partir de là, il faut faire évoluer l'Europe, notamment pour cesser d'en faire un appareil à produire des normes. Il faut que l'Europe, elle se concentre sur certaines choses simples. Mais c'est aussi important de dire que, d'une manière ou d'une autre, la France sera grande si elle est grande à l'intérieur de l'Europe. On ne va pas peser dans un monde de 6 milliards d'habitants si on n'a pas cette caisse de résonance qu'est l'Europe comme outil de coopération et de rayonnement pour la France et pour la diplomatie française. J'en profite aussi pour dire, c'est bien apparu notamment dans le débat d'entre-deux-tours, à quel point l'idée du Front National de sortir de l'euro est une idée délirante qui assècherait l'épargne des Français, qui appauvrirait les salariés français, qui serait un boulet pour les entreprises françaises, donc personne ne serait gagnant. Et d'ailleurs, on l'a vu au fur et à mesure que le Front National faisait des contorsions de plus en plus grandes. S'ils continuaient à expliquer qu'ils n'aimaient pas trop l'euro sans pour autant assumer les catastrophes que serait la sortie de l'euro, je pense que c'est aussi un élément que les électeurs doivent avoir en tête. Je comprends les attentes et les inquiétudes des électeurs du Front National, mais les solutions que proposent ceux qui se présentent aujourd'hui aux élections pour le Front National ne répondront pas à ces attentes.
Le Front National, vous en parlez, 28,2% je crois au premier tour des présidentielles dans la 10e circonscription, c'est une inquiétude?
C'est un taux en tout cas qui est très élevé, ça on en a conscience. Mais justement, moi je m'adresse directement à ces électeurs, à ce presque un tiers d'électeurs de notre circonscription qui ont voté Front National. J'entends leurs attentes en particulier sur la sécurité, sur l'immigration, sur aussi leur sentiment de déclassement, de pas être entendu. Mais je leur dis que en votant Front National, même s'ils étaient le Front National avait un certain nombre de représentants, les solutions qu'ils proposent sont sans doute pas les bonnes, et deux, ils ont probablement peu de chances d'être élus, et donc voter pour le Front National, c'est risquer d'avoir à l'arrivée la victoire de candidats de la gauche ou proches de la gauche qui ne vont rien faire pour résoudre aux problèmes qui préoccupent ces électeurs.
C'est-à-dire que derrière ce que vous dites, il y a le risque d'une triangulaire au second tour.
Bien sûr, d'une triangulaire ou en tout cas d'une configuration qui fasse que le candidat élu, de toute façon, ne sera très vraisemblablement pas celui du Front National, parce que l'arithmétique électorale est comme ça, mais qui en tout cas ne sera pas un candidat qui répondra à leurs attentes.
Passons à un autre sujet, parce que le temps passe. Vous savez qu'on est très, très, très intéressé par l'écologie à Couleur FM. Et donc, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu la vision que vous portez chez Les Républicains au niveau de l'environnement, de l'écologie. On a vu aux États-Unis un Trump qui a envie de revenir sur les accords de la COP21. C'est quoi votre vision des choses, l'un ou l'autre?
On va répondre à deux voix, c'est aussi un sujet sur lequel Damien a des choses à dire. Moi je suis résolument engagé pour les défis écologiques. C'est ma famille politique qui a porté les Grenelles de l'environnement avec Jean-Louis Borloo. La sortie de la COP21 par Trump serait une catastrophe, et j'espère que c'est pas la décision qu'il prendra dans quelques jours. Je pense simplement qu'il faut avoir une approche de l'écologie, et c'est la mienne, qui ne soit pas une approche idéologique. Moi, je suis très frappé quand même de voir que l'Allemagne est sortie du nucléaire sous la poussée des Verts au nom d'un certain dogme écologique, et qu'aujourd'hui, c'est un des pays les plus polluants et les plus émetteurs de gaz à effet de serre, parce qu'ils ont fait, ils font tourner à pleine puissance les centrales à charbon, ce qui sont la seule manière de remplacer à bref délai les centrales nucléaires. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche raisonnable, garder la force du nucléaire, mais en même temps avoir une vraie politique écologique sur la maîtrise de l'énergie, sur le développement des énergies renouvelables. C'est ça ma ligne politique dans ce domaine.
Monsieur Michel.
Oui, je rejoins complètement Vincent. Moi, j'ajouterais un concept nord-isérois, c'est le BSP, le bon sens paysan. C'est-à-dire qu'il faut absolument inscrire l'écologie avec du pragmatisme et pas de l'idéologie. Et on voit et on s'aperçoit que quotidiennement, les élus du Nord-Isère, dans nos communes, mais aussi en s'appuyant avec la CAPI ou les différentes communautés de communes qui nous entourent, on arrive à faire des choses simples et efficaces qui s'inscrivent dans des concepts parfois novateurs d'un point de vue environnemental.
Alors, il nous reste 3 minutes 30, le temps d'aborder un peu de culture, peut-être, vous lancer un peu sur, voilà, demain, dans une petite semaine, vous avez la majorité à l'Assemblée, quelles seraient vos politiques culturelles ?
D'abord, je tiens à dire que c'est pour moi un enjeu majeur. À Bourgoin-Jallieu, nous avons créé un nouveau festival de rock, les Belles Journées, dans une période où, en raison des contraintes budgétaires, beaucoup de collectivités, au contraire, fermaient ou réduisaient la taille de leur festival. Et ce festival sera demain porté en commun avec la CAPI. Donc, vraiment, je crois à la culture comme un vecteur de rayonnement et de développement des territoires, et c'est cet esprit-là aussi que j'espère apporter à l'Assemblée nationale. Je souhaite que les habitants du Nord-Isère trouvent ici, sur notre territoire, une offre de qualité la plus riche possible. C'est un domaine dans lequel les collectivités s'investissent beaucoup, et je pense que l'État doit plutôt accompagner les collectivités dans ce domaine comme dans d'autres.
Très bien, et alors peut-être dernière question, est-ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que finalement, ce qu'il y a à faire en France aujourd'hui, est-ce que c'est pas recréer de l'espoir, et finalement l'élection d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est pas quelque chose un peu comme ça? C'est peut-être, est-ce que les Français recherchent, plutôt que d'avoir une vision totalement négative, toujours relayée peut-être par vous, politique, par les médias parfois, est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire maintenant?
Certainement, mais vous savez, Emmanuel Macron n'a pas le monopole de l'espoir. Avec Damien, je l'ai dit, on est des jeunes maires élus en 2014. Je pense qu'on pratique tous les deux nos mandats avec énormément d'enthousiasme. Nous, à Bourgoin-Jallieu, on a fait beaucoup de choses dont certaines étaient reportées indéfiniment et paraissaient impossibles. Mais finalement, la rue piétonne a été refaite. Il y aura un nouveau conservatoire, il y aura une nouvelle piscine, il y aura un nouveau commissariat, il y aura un nouveau tribunal, il y a un festival qui s'est créé, et je pense que ça prouve qu'avec de la volonté, de la ténacité, on peut obtenir des résultats, et je suis certain que c'est ça qu'attendent les électeurs, y compris dans cette élection législative.
Dans cette période de recomposition, c'est aussi un renouvellement de la classe politique. Tout à l'heure, je disais que vous étiez des jeunes maires, des maires jeunes. C'est un petit peu ça ce que vous représentez là, tous les deux.
Bien sûr. Si les électeurs me choisissent, ils auront un député qui ne l'a jamais été et qui siégera pour la première fois sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais avec moi, ils cochent toutes les cases puisqu'ils ont à la fois le renouveau et en même temps l'expérience. Je serai un jeune député élu pour la première fois, mais en même temps, j'aurai cette expérience des mandats locaux, cette connaissance du territoire, des attentes des élus. J'ai passé beaucoup de temps à la CAPI, mais aussi au Val du Dauphiné, à discuter avec les maires, avec les adjoints, avec les vice-présidents des intercommunalités pour connaître leurs attentes, pour savoir que souhaitaient les habitants, en particulier dans nos petits villages, dans nos zones rurales, qui parfois se sentent délaissés. Donc c'est toute cette attente-là, tout ce besoin d'accompagnement, d'aide, de soutien que je porterai aussi demain à l'Assemblée nationale.
Eh bien, merci beaucoup Vincent Chriqui, Damien Michalet, candidat de la droite et du centre pour les élections législatives. Merci d'être venu nous expliquer votre, au moins en partie, votre programme.
Merci.